1, 2, 3, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Barthas 107 FM.
Auditrices, auditeurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition live de 1, 2, 3 Climat. Pour rappel, hein, 1, 2, 3 Climat, c'est en live tous les 3e jeudi du mois, sauf quand ça tombe le 4e. Bon courage pour nous suivre. Comme d'habitude, on se retrouve pour cette émission avec vos chroniqueurs habituels. Hein, donc bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous et bonjour Amandine.
Salut Manu.
Salut à tous.
Et bonjour Yannick, qui ne répondra pas puisqu'il est absent aujourd'hui. D'après ce qu'il m'a dit, il ne voulait pas participer à cette émission à cause du choix musical que j'ai proposé.
Ça se peut.
Ouais, voilà. Bon, bah, je laisse les auditeurs juger de mes choix musicaux. Et enfin, comme à chaque émission, on a l'honneur d'accueillir au moins un invité. Ce soir, c'est Amandine, qui est admin système info pour le Parc National. Salut Amandine.
Bonjour.
Alors, le thème de cette émission ce soir, c'est un thème qui me tient à cœur. Alors ne comptez pas sur moi pour être objectif puisqu'on va parler du numérique et que c'est un vaste sujet. Numérique, ça pourrait être un mot valise tellement les sujets qui l'englobent sont nombreux. Déjà, on rassemble deux choses sous ce terme, la partie hardware ou matériel, c'est-à-dire l'ordinateur, le téléphone, l'appareil connecté qui va être notre moyen d'accéder à des outils, des applications et des logiciels qui, eux, constituent la partie software. On verra dans cette émission quels sont les impacts de ces deux grandes familles en termes écologiques, évidemment, mais aussi en termes sociétal, c'est-à-dire en termes d'impact sur nos quotidiens, notre organisation, notre santé, etc. On oppose souvent le terme numérique au terme analogique qui lui indique, selon Wikipédia, qu'une chose est suffisamment semblable à une autre d'un certain point de vue pour que leur analogie permette de dire de l'une ou de faire avec l'une ce qui applique aussi avec l'autre. C'est pas du tout clair. Voilà. Un appareil, particulièrement un instrument de mesure ou de communication qui représente une grandeur physique par une autre, est analogique. Donc, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple.
S'il te plaît.
Un thermomètre mercure est analogique puisque la longueur du fluide dans un contenant gradué indique la température extérieure. Ce qui s'oppose à votre thermomètre numérique qui, lui, va vous afficher directement la température après avoir traduit le signal électrique transmis par un capteur. L'exemple le plus parlant, c'est finalement la musique. La musique analogique, c'est vos CD, les vinyles, les cassettes audio, les platines, les lecteurs associés. Alors que streamer vos tracks depuis le cloud, ça, c'est le numérique. Et je crois que c'est ça que j'aime avec le numérique, c'est que
finalement... On pourrait pas mettre Google Translate.
Le numérique, il n'invente rien, il réinvente juste des choses qui marchaient déjà avant, mais qui demandaient plus d'efforts. Souvenez-vous des crayons à papier utilisés pour embobiner vos cassettes, de la hantise, de la rayure sur le CD, du temps à passer à chercher le prochain 12 titres que vous alliez mettre dans votre super sono avec plateau 3 CD, de la galère que pouvait être la création d'un best-of de vos morceaux préférés enregistrés à l'arrache sur une cassette pendant une diffusion radio. Bref, le numérique a changé beaucoup de nos usages, les rendant plus simples. Et pourtant, j'ai parfois une certaine nostalgie pour toutes ces machines, ces espaces pleins à craquer de vidéos, de CD et aussi de tous ces échanges que l'on pouvait faire physiquement entre copains et non pas chacun chez soi derrière un écran. Gros avantage toutefois du numérique aujourd'hui, c'est que quel que soit votre usage aujourd'hui, généralement un seul appareil vous suffit pour tout faire, là où vous deviez avoir un appareil analogique pour chaque usage dans les années 90. Et pour illustrer un peu tous ces usages, je vais vous laisser écouter des enregistrements que j'avais fait en 2020. Parce que figurez-vous, j'ai eu beaucoup de temps à tuer cette année-là. Et qui sont donc à la base des audios, des enregistrements audio trafiqués qui devaient servir à illustrer une vidéo publiée sur YouTube. Voilà, et tout ça, je l'ai fait avec un seul appareil qui était donc mon téléphone. Donc c'est un petit clin d'œil. Enfin, ça fait rire de retomber sur ces enregistrements. On écoute.
Hey, salut, utilisateur inconnu. Moi, c'est Monsieur Green. Mais tu peux m'appeler juste Green. Je suis une intelligence artificielle en réorientation professionnelle. Ouais, j'en avais marre de mon ancien taf. Du coup, Turfu a bien voulu m'accueillir. C'était le boulot un peu classique, compiler des données, mettre au point des systèmes de notation de la population, ce genre de choses, quoi. Un boulot d'une IA classique pour une IA classique, voilà. Et non, j'en avais marre de ça, alors j'ai changé. Ouais, non, j'ai quitté mon ancien poste, ça me convenait plus. Je me suis épanoui pendant un temps, puis après j'ai compris que j'étais tout le temps le dindon de la farce, et puis j'étais pas en accord avec la logique d'entreprise, voilà. Du coup, Turfu, il a bien voulu m'accueillir, pour que je puisse prendre l'air déjà, parce que je fais ordinateur de bord sur sa roue maintenant, donc le confinement, c'est sans moi. Et puis ça me fait du bien, je suis grand air, tu vois, c'est... De temps en temps, on prend une grande inspiration comme ça, on respire un grand coup et on se sent mieux quand même. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tant qu'IA.
Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce flashback de 2020, du coup, de mon côté, où je m'ennuyais beaucoup, hein, du coup. Donc, tout ça, j'ai pu le faire avec un seul appareil, mais en fait, ce seul appareil, il reste avec un impact considérable sur nos ressources matérielles. Et là-dessus, je vais vous laisser avec Manu, qui va vous en parler.
Et bien voilà, je vais vous parler d'une époque il y a 35 ans que les jeunes n'ont pas connue. En fait, à cette époque-là, les technologies numériques étaient réservées aux militaires.
Et, c'était mieux, hein, quand même.
Et, c'était avant, mieux pour eux. Et à quelques hommes d'affaires, c'était bien aussi pour eux. Enfin, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, hein, quand même, parce que ces technologies sont tellement imbriquées dans notre vie quotidienne qu'on en oublie presque que c'est de la matière qui permet de faire circuler les mégaoctets. Parce qu'il faut savoir que l'infrastructure numérique mondiale avoisine les 300 millions de tonnes, c'est-à-dire à peu près 6 fois le parc automobile français. Et en fait, ça augmente sans arrêt. Alors, bienvenue dans le monde réel qui permet de fabriquer et de faire fonctionner nos ordinateurs, smartphones, consoles, jeux, et accessoirement de vivre dans le métavers et avec l'intelligence artificielle. Alors, l'infrastructure physique du numérique sur laquelle... repose tous les usages, inclut les data centers, le réseau, les appareils des utilisateurs finaux. Et c'est la production de cette infrastructure qui pèse le plus sur son empreinte écologique. Par exemple, pour fabriquer un ordinateur portable de 2 kg, il faut pas moins de 600 kg de matières premières, dont une vingtaine de métaux, aluminium, cuivre, cobalt, or, argent, terres rares, etc. Et il faut également 200 kg de combustible fossile, 1,5 tonne d'eau douce et 22 kg de produits chimiques, notamment pour la fabrication des composants électroniques. Alors, sur toute sa durée de vie, cet ordinateur de 2 kg générera 169 kg de CO2 et 124 kg uniquement pour sa production, c'est-à-dire 70% de son impact. Alors, pour un smartphone, il faut savoir qu'il a déjà fait 4 fois le tour de la Terre avant qu'on l'ait dans sa main. Alors, il utilise des matières premières qui sont extraites et transformées en Asie, en Afrique du Sud, en Australie ou en Amérique du Sud, ça dépend. On s'en sert ensuite pour fabriquer les composants en Asie, ou bien aux États-Unis ou en Europe, et puis on les expédie en Asie du Sud-Est, histoire de les assembler. Et enfin, l'appareil peut être distribué, souvent, la plupart du temps, en avion, pour qu'on puisse le retrouver dans nos boutiques. En admettant ainsi qu'on utilise ce smartphone pendant 2 ans, sa consommation d'énergie totale aura été réalisée à plus de 90% avant même son achat. C'est super. La question est donc de savoir si on peut produire et utiliser une infrastructure numérique de façon plus raisonnée. On peut vraiment se poser la question et en fait, ça ne va pas être facile hein, vu les tendances actuelles. D'une part, il y a de plus en plus d'utilisateurs. On en comptait 2 milliards en 2010, c'est déjà pas mal. Hein. Aujourd'hui, on est plus de 5 milliards, ça veut dire presque les 2/3 de la population mondiale. D'autre part, le nombre d'appareils connectés augmente de manière exponentielle. On en comptait 1 milliard en 2010, à peu près 50 milliards aujourd'hui, quand même, et probablement 100 milliards en 2030. Et c'est pas vraiment sur le progrès qu'il va falloir compter pour nous sauver. Hein. Parce que si on est capable aujourd'hui de produire des appareils de moins en moins énergivores et de plus en plus performants, ça entraîne malgré tout une démultiplication des usages et une augmentation du débit. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Par exemple, les économies de matières premières qui vont être générées par la miniaturisation sont rapidement effacées par la multiplication du nombre de petits appareils électroniques qui vont venir remplacer prématurément les plus lents et les plus gros des appareils, je parle. Hein. Et de plus, la miniaturisation rend bien plus difficile le recyclage de l'appareil, ce qui conduit, in fine, à consommer davantage de matière. Alors, si on prend le volume des données transférées, je ne vais pas aller vraiment dans le, pour expliquer ce qui se passe dans ces données, ça on en parlera tout à l'heure probablement, hein, mais en tout cas, l'augmentation, l'accroissement fulgurant du nombre de données qui sont transférées, transformées et stockées entraîne nécessairement le développement d'infrastructures informatiques plus importantes. Eh ben, ces structures informatiques vont à leur tour permettre l'émergence de nouveaux usages qui, eux-mêmes, vont nécessiter des volumes de données plus importants. Et merci l'effet rebond. Au final, l'augmentation de la production d'équipements numériques mobilise des quantités croissantes de métaux rares et critiques qui sont eux-mêmes indispensables aux technologies énergétiques bas carbone. Et alors que les gisements s'épuisent et que les tensions géopolitiques s'accroissent, la transition numérique vient ainsi percuter la transition énergétique. Ça craint. Alors, que faire ? Que faire ?
Que faire ?
Parce qu'on est 100% solution. Ouais. Alors, que faire ? Eh bien, on va dire qu'au niveau des citoyens, c'est sans doute en prolongeant au maximum la durée de vie de nos équipements qu'on aura le plus d'impact. Alors, ça tombe bien parce qu'on a en France le bonus réparation depuis 2022 qui permet aux consommateurs de réduire d'environ 17% sa facture de réparation. Bon, c'est déjà ça le prix, hein. Et il faut quand même se rendre dans un réparateur agréé Calirépar. Bon, je crois qu'on en a 3-4 en Lozère.
C'est quoi ce dispositif ? C'est l'État ?
C'est l'État, oui. Alors même au-delà de ça, on a une directive européenne qui s'appelle Right to Repair qui a été adoptée très récemment. Et qui fait que finalement la réparation est devenue un droit. Et pour alimenter cette directive, il y a un règlement qui est en cours de préparation sur l'éco-conception. Alors on va espérer que les lobbies ne vont pas se mettre là-dedans, parce que ces règles d'éco-conception vont s'imposer aux fabricants pour finalement permettre de réduire le gaspillage des ressources.
Assurer les pièces détachées, etc., etc., comme ça existe déjà dans l'électroménager, par exemple.
Par exemple, voilà. Alors, par rapport aux appareils électriques, hein, faut dire qu'on a un gisement d'appareils électriques non utilisés en France qui est une véritable mine d'or. On compte 178 millions d'appareils qui dorment dans un tiroir. Ça veut dire plus de 20% du parc. Alors, il y a un certain attachement à ces appareils, ou alors on hésite à les faire réparer. D'ailleurs, il y a un sondage qui dit que un Français sur deux préfère remplacer son appareil tombé en panne plutôt que de le réparer. Donc on peut dire qu'on a du pain sur la planche, hein, pour les convaincre. Une autre solution sera d'acheter un produit reconditionné. On en trouve, hein, qui sont garantis 2 ans. C'est comme du neuf, mais c'est moins cher. Et puis, il y a sans doute des questions à se poser au niveau des usages numériques, mais ça fait partie de la suite du programme. Alors, restez sur Barthas. Oui.
Eh bien, merci Manu, du coup, pour cette superbe chronique sur le matériel. On va se retrouver tout de suite après une pause musicale. Non, il n'y a pas de pause musicale.
Je jette mon téléphone dès ce soir.
Et rebonjour, on vient d'écouter sur l'ordinateur de Jean-Pierre Madère. Vous constaterez un petit goût années 80 dans ce morceau-là. C'est un des morceaux qui a fait beaucoup plaisir à Yannick. Yannick, on t'embrasse. Et donc on est sur Radio Bartas pour l'émission 1, 2, 3 Climat. Et on enchaîne tout de suite sur l'impact immatériel du numérique avec Philippe.
Oui. Comment tu t'appelles ?
Philippe.
Comment tu t'appelles ?
Philippe.
Eh bien, merci Ben pour cette belle virgule que je découvre.
On fait ce qu'on peut.
Oui, alors déjà, bon, Manu, il a pas mal enfoncé le clou, hein. Donc je vais continuer à l'enfoncer un peu, mais je vais essayer, moi, de m'attacher un peu plus à nos usages perso et voir ce qu'on pourrait modestement arranger pour limiter ce grand bazar. Alors, parce que, ben, comme Manu l'a dit, hein, voilà, c'est en fait l'impact numérique, un chiffre que j'ai trouvé qui m'a semblé assez parlant, c'est le même impact carbone que nos déchets en France. Ça donne une idée déjà du truc, hein. Alors, en fait, si on regarde de plus près tous ces systèmes, donc data, tout le système, on va dire, Internet, numérique, data center, terminaux, infrastructures, réseaux, eh bien, en fait, on s'aperçoit que tout ce système est surdimensionné. Je crois qu'on en reparlera un peu plus dans le détail. Il n'est pas du tout optimisé. Il est très énergivore. Et puis, c'est un peu la course au toujours plus. C'est-à-dire qu'on a des applications qui sont de plus en plus lourdes. Hein. C'est ce que décrivait Manu pour les terminaux, l'effet rebond. Et bien là, on retrouve la même chose en fait en ce qui concerne l'usage. Parce que, comme je vous disais, des applications de plus en plus lourdes avec des mises à jour quotidiennes. À chaque fois, ces applis qui peuvent marcher très bien comme ça, ben, bon, on rajoute quelques fonctions qui ne sont pas forcément utiles. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi des applications qui sont un peu faites à la va-vite parce que ben, voilà, c'est des applications payantes. Et puis, alors, c'est pas du tout optimisé en termes de fonctionnement. Hein. Les box allumées en permanence, par exemple. Voilà. Alors que finalement, la nuit, quand on dort, elle pourrait être éteinte. Et elle ne sert pas. Et la même chose, encore pire pour les serveurs et les data centers. Ils fonctionnent en permanence. Alors, ils sont hébergés en Europe un peu, je crois, à l'autre bout du monde. Et ils sont toujours disponibles. Ils sont toujours à fond, quoi. En fait, ils sont toujours allumés. Ils marchent toujours. Alors que, en fait, on estime qu'ils sont vraiment... Ouais, ils sont dimensionnés pour fonctionner sur des pics d'utilisation. Tout le monde se connecte, je ne sais pas, entre midi et deux, par exemple, ou le soir pour regarder un film. Donc, ils sont dimensionnés pour ça. Et en fait, quand on regarde un peu... ce que ça représente en utilisation globale, en fait, ils sont utilisés à 60% de leur capacité totale. En plus, l'inconvénient, alors là, je mords un peu sur la chronique de Manu, c'est que, en fait, ça produit beaucoup, beaucoup de chaleur parce qu'un microprocesseur, il y a 50% de l'énergie consommée qui part en chaleur, en fait. C'est pour ça que tous ces data centers, il faut les refroidir. Donc, quand ils sont dans des pays où il fait, on va dire, un climat tempéré, ça veut dire que là, il faut de la clim. Enfin, voilà, après, on s'en sort plus. Donc les routeurs, tout ça, c'est le même système. Hein. Alors, bon, je sais pas, quelques conseils perso pour peut-être mieux nous-mêmes utiliser tous nos téléphones, nos ordis, en général sur un mobile, pareil. Alors, j'ai trouvé sur le net plein de sites internet qui font des recommandations sur comment mieux utiliser. Par exemple, les photos. On peut éviter de les stocker sur un serveur, les photos familiales et tout ça, les photos perso. Elles peuvent être stockées sur vos ordis, par exemple. Et elles n'ont pas besoin, je pense, d'être stockées sur un cloud, un serveur, surtout qu'on ne les regarde pas tous les jours non plus, hein, donc. Alors, les mails, par exemple. C'est pareil, quand on envoie une photo, souvent nos téléphones d'office, ils sont réglés sur... ils font des photos de plus en plus lourdes, donc en termes d'octets, Et donc, on peut régler son téléphone, hein, par exemple, pour faire des photos, en sachant que quand on regarde une photo sur un écran, si elle fait 100 kilooctets, c'est largement suffisant. Donc voilà, alors que nos téléphones font des photos qui peuvent aller jusqu'à 7, 8 mégas. Donc bon, voilà. Alors, ben, la box, j'en parlais tout à l'heure, hein, on peut l'éteindre la nuit. Et puis sur tout ce qui est voilà sur tout ce qui est streaming par exemple, ben alors Thomas parlait d'il y a 35 ans, on pourrait retourner un peu plus dans les vidéoclubs parce que
ah c'est Manu qui parlait il y a 35 ans.
Ah oui, c'est pardon,
j'ai à peine 35 ans, je peux pas je peux pas en parler de cette époque.
Bon, d'accord OK, pardon. Et puis ouais par rapport au mail aussi par exemple il faut réussir à faire la différence entre nos mails qui sont sur un serveur en fait, c'est pareil, je sais pas où, ce qu'on appelle un webmail, et puis les mails qu'on récupère en se connectant et qui sont après dans notre ordinateur, celui-ci il est éteint la nuit, donc voilà, ça consomme beaucoup moins que de laisser tous nos mails sur un serveur. Bon voilà, plein de conseils comme ça. Les usages du numérique, ben, ça augmente vraiment de façon exponentielle, hein. Et donc ce fameux effet rebond, en fait, on pourrait croire que comme la technologie s'améliore, on va consommer moins, mais en fait, on utilise encore plus le numérique. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir un peu sur le net. Je vous ai dit, j'ai trouvé plein de sites qui donnent des bons conseils.
Et tout de suite, du coup, on va enchaîner après ces deux constats avec notre invité à qui on va poser des questions et qui va tousser dans le micro, j'espère.
Spécialiste.
Interview climat.
1, 2, 3, climat.
Alors Amandine, du coup, donc t'es administratrice de système d'information, donc tu gères de la donnée, etc. Donc le numérique, on peut dire que quand même tu baignes dedans au quotidien. Déjà, j'ai une première question. Donc on a parlé de l'impact numérique des data centers, etc. Mais la pollution numérique au quotidien pour un individu, c'est quoi?
Je sais pas ce que c'est le numérique en fait. Qu'est-ce que le numérique? La pollution numérique, c'est tout ce qui concerne le numérique. Et donc on voit actuellement tous les usages qu'on a du numérique au quotidien, à savoir utiliser notre téléphone, utiliser notre ordinateur. Mais c'est aussi tout ce qui est lié avec, par exemple, le fait d'être surveillé par des caméras de vidéosurveillance où potentiellement il y a des algorithmes d'intelligence artificielle derrière. En fait, il y a énormément de numérique qui nous entoure sur lequel on n'a pas forcément conscience non plus, quoi. On a un usage direct, mais on a aussi une interaction indirecte avec ce numérique-là.
Ok, et si si là aujourd'hui on parle de ça, on essaie nous dans notre quotidien de limiter notre impact, mais ça veut dire il faut que, comme Philippe le disait, j'achète moins, je renouvelle moins souvent mon téléphone, il faut que je nettoie mes boîtes mail, et comment est-ce qu'on peut
limiter au maximum la plus grosse partie, donc comme disait Manu, c'est quand même, enfin tu peux nous le confirmer peut-être Amandine, c'est l'appareil en lui-même en fait, sa fabrication.
C'est ce qu'il disait.
Manu,
donc il y a bien trois aspects en général quand on parle de pollution numérique. Un, la génération du matériel. Deux, le stockage des données avec le data center. Et trois, vraiment les réseaux, ce qui permet la télécommunication et le transit de l'information entre les différents éléments. Donc il y a effectivement la première partie qui est la plus grosse, qui est celle du matériel. Donc effectivement, essayer d'éviter...
Je crois que c'est 75%, il me semble. C'est vraiment la plus grosse. Quoi.
Ça dépend des... En fait, ce qu'il faut quand même voir, c'est que globalement, dans le numérique, vu que c'est un secteur qui est extrêmement privé et pas très public, en réalité, il y a des secrets industriels, il y a tout un truc de concurrence qui fait que c'est jamais des chiffres très précis, ça va être des chiffres très variables dont on n'a pas du tout la maîtrise, nous, en tant que citoyens ou en tant que structure publique.
Okay. Ouais, c'est vrai que moi j'ai consulté un truc du CNRS, mais effectivement, comme tu dis, voilà, probablement beaucoup de secrets.
Donc voilà, donc du coup c'est effectivement la plus grande partie, donc effectivement réduire le matos, se poser la question de est-ce qu'on a besoin d'avoir une tablette, un ordinateur, un smartphone, une OK Google, la box, là, du coup. une voiture connectée. Enfin, voilà, d'avoir. En fait, parce qu'il y a plein de choses dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui contiennent du numérique, en fait, qui sont.
C'est ouais, ça, et puis en, là, fait, en fait, une bagnole, on voit, elle pollue. Ça se voit, il y a le pot d'échappement.
Oui.
L'internet, le numérique, on le voit.
C'est un peu le problème.
On ne le voit pas. Oui. Et puis ça soulève du coup une autre chose, parce qu'on parle de pollution numérique en termes d'impact là sur l'environnement, mais en fait là tu parles un peu de cette privatisation de l'espace numérique par des sociétés privées. Donc on va évoquer les GAFAM, mais ça aussi c'est un problème pour notre société, en fait, pour notre organisation en tant que société. Et ça, comment toi tu le vois, ce genre de choses, qu'est-ce que tu fais toi au quotidien pour lutter éventuellement contre l'utilisation de tes données, tout ça?
Je dis non, je refuse tous les cookies.
Refuses les cookies.
Il faut refuser les cookies, ouais. C'est pas alors, grave, sinon on n'accède pas au site.
Ouais, si on explique un peu ce que c'est qu'un cookie, parce que en fait c'est le truc qui devient automatique. En fait, tu reçois quand tu vas sur un site internet. Alors est-ce que vous acceptez, refusez? Moi aussi, j'ai plutôt tendance à refuser par méfiance. Et c'est vrai que je sais pas complètement ce que c'est, quoi. Enfin, qu'un cookie, à part, je crois que c'est un gâteau aussi, mais ouais. C'est pas.
Ouais. Un cookie, au-delà d'être un délicieux gâteau,
oui.
C'est en fait une information qui va être stockée sur votre ordinateur, qui va transiter entre le serveur et l'utilisateur. Et du coup, ça va permettre à l'application centrale de récupérer des informations et qui peuvent être des informations personnelles. Donc maintenant, du coup, il y a eu l'Europe qui a légiféré sur en mettant une loi qui s'appelle le RGPD, le règlement sur la protection générale des données, qui nous permet donc, qui oblige les gens à spécifier: attention, j'enregistre des données personnelles sur toi, est-ce que tu es d'accord ou pas?
Oui, c'est ça ce qu'on nous demande quand on dit accepter, voilà. Refuser.
Donc quand on accepte, après il faut aller lire qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on refuse.
Oui. Alors là,
les fameuses conditions générales que personne ne lit.
Donc les fameuses conditions que personne ne lit, qui en général engendre un enregistrement de données.
Oui.
Du coup, qui va mettre du poids, effectivement, déjà numérique, d'un côté, et d'un autre, on donne un consentement pour utiliser la statistique de notre usage du web, qui permet après, en fait, de mieux profiler et de mieux cibler les usages et les gens, et donc potentiellement de faire de la pub ciblée, de développer des applications qui correspondent aux différents usages en fonction des profils.
Oui.
Donc du coup, effectivement, là, c'est ça c'est vraiment quelque chose qui est assez spécifique sur cette notion de cookie, de données personnelles, qui est liée au GAFA, qui est vraiment la manne des GAFA, oui. Où effectivement, qui nous offre souvent des services gratuits, mais qu'on paye.
Quand c'est gratuit, c'est ton produit.
En donnant de données personnelles.
Oui, c'est ça. Et qui servent justement, eux, qu'eux utilisent commercialement. Mmh. Et quand on parle des GAFAM, il y a aussi inclus tout ce qui est réseau, Facebook, WhatsApp, qui servent à ça aussi, non? Un peu à récupérer des informations globales sur le milieu où on vit.
Et puis qui ouvrent les réseaux. En plus, ils ont ça de spécifique que dans le numérique, c'est encore presque un autre impact sociétal qui est différent par rapport à ce que tout le reste du numérique peut faire, puisque ça génère de la pensée en silo, puisque c'est des algorithmes qui vont créer une bulle informationnelle autour de chaque individu à donner des informations qui vont dans son sens de courant de pensée ou au contraire qui vont le vexer. Le but de l'algorithme étant simplement de faire réagir la personne au maximum, et ça a tendance à polariser. Voilà, je pars un peu sur autre chose.
Après, il y a un autre aspect des choses, c'est que la collecte des données va permettre aussi de développer l'IA parallèlement, parce qu'en fait, on l'entraîne avec toutes les données auxquelles on alimente la machine, quoi. Donc, on est en train de se savonner la planche, d'une certaine manière.
Ouais. Et en tout cas, ce qui me surprend, c'est que je fréquente pas trop l'IA, mais c'est marrant d'avoir comme ça un système qui est complètement gratuit, hein, qui apparemment a des performances assez importantes. Et bon, mais je sais pas, ça cache quelque chose. Donc, je vous aurais pas parlé de théorie du complot, mais on n'en est pas là. Mais effectivement, je pense que derrière il y a une
vous êtes bien
un
sur
truc
Radio Barthes,
commercial. voilà,
ouais. Bah, il y a le capitalisme, bon, enfin, oui, tout simplement. Voilà, ouais. C'est des intérêts économiques.
Ouais. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut reparler justement de la... On en discutait avant l'émission, là, de la latence, alors, justement.
La latence, du coup, effectivement, ça, c'est un peu... effectivement, on peut dire quelque chose de très propre au capitalisme qui, principalement, joue sur notre flémardise et sur nos besoins d'avoir, de façon instantanée, ce que l'on désire. Donc la latence, c'est un peu ça. Internet, voilà, Internet, c'est vraiment un monde qui est en perpétuel éveil, sur lequel on va tout trouver de façon la plus rapide possible. Et en fait, on n'accepte plus, moi la première, hein, quand on allait sur les sites web dans les années 90, d'attendre 2 secondes qu'une page se charge. Non, directement, il y a une page se charge, il y a 20 contenus, enfin il y a des contenus.
Des fenêtres qui s'allument de partout.
Qui viennent de 20 sources différentes, de pubs, de plein de choses. Et voilà, on n'accepte plus du tout cette latence-là. Et donc du coup, tout le réseau, toute l'infrastructure Internet, c'est effectivement nous offrir un contenu de façon de plus en plus rapide, de plus en plus ciblé aussi, mais ça c'est un autre problème.
Oui,
c'est un autre sujet. Et qui, je ne sais plus ce que je voulais dire à la fin, mais voilà.
Oui. Donc, en fait, le conseil, ce serait, soyons un peu moins pressés aussi.
On revient au modem 56K, qui était très très bien, hein, les 2-3 minutes de connexion avec un bruit tonitruant.
Surtout comment on fait dans nos boulots, en fait, où on a besoin, envie peut-être d'aller vite, on a perdu la patience, comment on retrouve cette patience? Toi, aujourd'hui, tu travailles au parc, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Comment tu fais, toi, pour te dire « Ok, là, je vais prendre le temps alors que quelque chose doit être fait pour avant-hier » Parfois, comment on fait?
Il y a deux choses. La première question, c'est de se demander qu'est-ce qu'on fait sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on y va et quelles questions on pose? Parce qu'on voit bien, il y a plein de fois, on fait des recherches Google, par exemple, où c'est parce qu'on ne sait même pas vraiment ce qu'on cherche. Donc on y va, on tape, et puis on n'a pas la réponse qu'on voulait, alors on tape autre chose. Oui. Enfin voilà, déjà, il y a savoir pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser. Je pense que c'est vrai pour tous les domaines de la vie, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et quel usage on en a.
Mais finalement, ces usages-là qui sont la navigation sur le web, est-ce que c'est pas marginal par rapport à tout ce qui nous arrive avec les objets connectés qui fonctionnent eux-mêmes finalement sans qu'on leur demande?
Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, c'est pareil. Enfin, moi, je vais être un peu pessimiste, mais tout le truc de dire « Ah, on nettoie les mails », ce genre de choses, c'est vrai que ça, quand ça fait pas le poids... Quand on met ça face à tout le stockage justement des données connectées, de tous ces appareils et de tout ce qui est lié à l'IA et sur des choses qui stockent des masses d'informations nettement plus conséquentes que nos petits mails.
Oui, non, mais c'est sûr qu'il faut être conscient de ça. Après, bon, moi je me dis, c'est une petite goutte d'eau, mais bon, c'est toujours ça.
Bah ouais, je suis plus content que tu dises ça, hein. Je te trouve pas très pessimiste, parce que du coup, moi, j'avais vu une statistique, et quand on a décidé de faire cette émission thématique, il y a eu débat, parce que je me suis dit, est-ce que le numérique, c'est vraiment le plus important dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisque c'est le sujet un peu de l'émission de base. Mais il y a une stat, a priori, sur nos usages d'Internet, notamment les usages logiciels, le truc qui consomme le plus de bandes passantes, et qui le générateur de plus de pollution, c'est l'industrie pornographique, en fait. Et ça, moi, ça me déprime un petit peu, parce que je me dis qu'est-ce que ça révèle de nos sociétés. Parce que sur l'usage logiciel, c'est le stream, c'est 80% de l'empreinte numérique du digital. Et sur ces 80% du stream, c'est majoritairement l'industrie pornographique qui, donc, a la plus grosse empreinte écologique. Oui. Donc voilà, mais messieurs, remontez vos pantalons. Voilà.
Après, sur le stockage de données, effectivement, sur la surveillance, par exemple, si on est un élu dans une commune, on peut aussi refuser, tu vois, d'avoir des caméras de vidéosurveillance, donc où on va stocker des dizaines de minutes de surveillance et qui sont jamais regardées, en fait, ou très rarement. Bon, enfin voilà.
Voilà, après, il y a effectivement toute la problématique aussi de la vidéo. Enfin, voilà, c'est la vidéo avec la haute définition et l'arrivée de la 5G. Oui. Où là, on est pleinement justement dans l'effet rebond, où la théorie du passage entre la 4G et la 5G, c'est-à-dire il ne va pas du tout y avoir de consommation d'énergie supplémentaire, puisque les réseaux 5G sont extrêmement optimisés. Les appareils vont s'éteindre quand il n'y a pas d'usage. Enfin voilà, il y a vraiment une attention particulière à cette consommation-là lors de la mise en place du réseau 5G par les constructeurs. Mais ça, maintenant, on peut regarder un film en ultra haute définition sur un tout petit écran dans son bus qu'on veut, quoi.
Donc, et alors, c'est mieux.
Du coup, c'est l'effet rebond. Que... Non, mais voilà, c'est toute la problématique liée à l'effet rebond, en fait. C'est qu'il y a effectivement quand même les technologies, elles peuvent évoluer pour baisser la consommation énergétique. Oui. Mais tout est fait pour que finalement, on augmente nos usages et donc on augmente cette consommation-là.
Oui. Oui. C'est déjà quelque chose qu'on avait un peu observé avec l'émission sur la mobilité, finalement. On a vu que les voitures, elles consommaient de moins en moins, mais comme elles étaient de plus en plus grosses, finalement, elles consommaient quasiment tout autant, quoi. C'est un fameux effet rebond.
J'ai une petite question, parce que finalement, dans ce qu'il faudrait faire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau de l'éducation, la sensibilisation des gens, parce que on n'est pas forcément informé de ce à quoi on retourne. Et puis, j'ai une double question, hein, c'est cette question de la sensibilisation. Et l'autre manière serait d'être plus directif et d'interdire la surconsommation de données. Donc, si je fais référence aux déclarations de Naja Vallaud-Belkacem, qui préconise, elle, qu'on limite à 6 gigas par semaine la consommation d'Internet. Mérite en tout cas de mettre sur la table des sujets qui sont quand même importants.
Je crois qu'en Chine, ils avaient fait ça. Hein.
Je sais pas.
C'était limiter l'usage de TikTok à 40 minutes pour je sais plus quelle tranche d'âge.
Par personne. Ah oui, non, oui.
Ouais. Et la Chine peut le faire.
Oui. Moi, du coup, je suis pour la proposition de Najat Vallaud-Belkacem, mais il faudrait que le gouvernement arrête de numériser l'intégralité de ses services publics.
Effectivement, j'ai entendu ce qu'elle disait, mais alors, je me suis tout de suite demandé comment faire, en fait. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Et sur la 5G, alors je suis désolé, j'ai pris un petit temps de latence pour réfléchir. sur la 5G,
système analogique,
en fait, je suis un peu analogique. J'ai compris que c'est beaucoup plus efficace comme système, mais en fait, du coup, pourquoi passer à la 5G uniquement pour cette efficacité, ou alors parce que ça va nous permettre de connecter encore plus de choses, ou... Enfin, c'est peut-être une question un peu difficile.
À mon avis, donc il y a aussi toute une question un peu géopolitique qui est que la Chine est complètement équipée en 5G, a des constructeurs 5G, et qu'il y avait quand même une volonté européenne de passer en 5G avec ses propres moyens pour ne pas se faire envahir en fait par des technologies américaines et chinoises dont ils comprennent. Donc on ne va pas forcément maîtriser. Et donc là, c'était quand même aussi au niveau calendaire un besoin de maîtrise de nos technologies, pour un besoin qui finalement n'est pas actuellement... on n'est pas dans une limitation de la bande passante actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien qui nous oblige à passer actuellement en 5G, à part, effectivement, on va regarder instantanément un film en super haute définition, mais sur des écrans qui ne lisent pas la haute définition, donc il n'y a aucun intérêt en soi. Mais, on va le faire, et ça va nous ouvrir la possibilité de connecter beaucoup plus d'appareils, d'avoir effectivement beaucoup plus de vidéos, de démultiplier tous ces usages-là derrière. Donc, qui ne sont pas une demande initiale.
Oui, c'est pas une demande globale de la population, on va dire.
Mais le numérique, de toute façon, est peu, moi je pense quand même, c'est mon avis personnel, mais il est peu conduit par les pouvoirs publics ou par la population. Il est vraiment créer des besoins, nous créer des addictions. Pour consommer, pour enrichir certaines sociétés, fondamentalement, quoi.
On a la chance d'être sur Radio Bartas et de se connaître. T'as deux enfants. Comment tu réfléchis, toi qui es dans le numérique, dans ton boulot, comment tu réfléchis par rapport à elles, justement, et de leur utilisation numérique, en fait, et quels conseils tu donnerais si jamais tu avais des conseils à donner en tant que maman ?
Alors, mes enfants sont petits, quand même, globalement. Elles ne sont pas très grandes, donc elles ont un usage quasiment...
Tu as fait gaffe dès le départ ?
Quasiment nul du numérique, mais je tiens à dire que moi, personnellement, je ne suis pas du tout quelqu'un du numérique au quotidien. Mm-hmm. J'adore l'informatique. En termes vraiment professionnels, c'est quelque chose...
Oui, qui a quand même apporté un plus.
Intellectuellement, oui. Qui est... Voilà, que j'aime bien, qui est très stimulant, qui peut amener, donc moi je travaille dans le domaine plutôt de la biodiversité, qui amène des choses très positives parce que ça nous permet d'échanger les données, de mieux les collecter, de rationaliser de certaines échanges, enfin voilà, la collecte, de mieux surveiller notre territoire, etc. Donc ça amène vraiment des choses. Donc dans un usage professionnel, qui n'est pas piloté par un besoin de consommation. Voilà, donc là, ça a vraiment un intérêt. Après, moi, dans ma vie personnelle, je tiens à dire, j'ai un ordinateur qui a 15 ans.
Non, c'est pas possible.
Que ça, j'allume ça une fois tous les 3 jours.
Ah bon, quand même.
Donc, j'ai pas de problème avec ça. Du coup, mes enfants, effectivement, sont pas très exposés du fait de ma faible utilisation du numérique.
Ça, c'est bon, ça. Donc, c'est le conseil, en tout cas, pas avant
pour les futurs parents.
Pas d'écran.
Parce qu'on parlait justement des réseaux tout à l'heure, et tu as évoqué alors les raisons géopolitiques de pourquoi l'Europe veut s'émanciper un peu de l'implantation et des entreprises chinoises et des entreprises américaines sur des périphériques qui pourraient finalement être des périphériques espions. Il y a eu des polémiques avec TikTok récemment. Les États-Unis l'ont interdit. L'Europe est en train de réfléchir à l'interdire. Il y a aussi des problèmes de santé publique qui sont liés à l'utilisation de ces réseaux, puisque a priori on voit des enfants qui sont exposés à des écrans qui ont moins de 3 ans et qui en fait finissent par avoir des problèmes d'élocution, tout ça. On voit que le numérique, c'est un impact qui est beaucoup plus grand que simplement un impact physique sur nos ressources et sur nos émissions de CO2. Voilà.
Ouais.
Est-ce que vous voulez rebondir ?
C'est vrai. Je rebondis. Alors, j'entendais sur une radio concurrente ce matin là. De Bartas.
Ouais, qui font bizarrement un truc sur le numérique aujourd'hui.
Ah,
bah,
comme de par hasard.
C'est... En plus, ah, oui. Non, mais c'est des copieurs. Bref. Donc, une jeune qui était interrogée, et c'est vrai que ça m'a étonné, quoi. La durée d'utilisation du téléphone sur les réseaux type TikTok et tout ça. Mais c'est carrément impressionnant. Des fois, cette jeune, 9 heures par jour.
Et... Bah, c'est sa journée, quoi.
Ouais.
Et donc, tu écoutais ça sur Bartas à 8h du mat.
Oui. Et combien de temps passe François Hollande passe sur TikTok, vous le savez, c'est une petite devinette.
Alors, en tant que filmé ou en tant que regardant ?
Ah, je sens que Ben a une réponse. Je sais pas, en tant que filmé, par exemple.
Je sais pas.
2 minutes.
Les politiques l'utilisent de plus en plus parce qu'ils savent exactement que ça marche, et je pense que c'est des numériques, ils ont besoin de ça.
Oui. Alors je crois qu'on est tous d'accord pour de toute façon dire que le numérique, l'internet, ça a amené quand même beaucoup de choses, hein. C'est quand même une petite révolution, mais voilà, moi j'ai aussi l'impression effectivement qu'on nous a mis entre les mains comme ça, sans que nous on le décide, des objets technologiques, techniques, et qu'on n'a pas forcément appris à s'en servir. Et que ce qui pourrait changer nos usages aussi, ou les usages communs, c'est de connaître mieux tout ça. Et bon, ça se fait, hein, nos enfants, je pense, enfin, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'ils l'utilisent plus ou est-ce qu'ils... Oui, remarque, est-ce qu'ils savent mieux l'utiliser ?
Je sais pas.
Ouais, c'est vrai.
C'est
en tout cas, ils l'utilisent plus.
Ouais, ils l'utilisent beaucoup plus.
Oui.
Mais en même temps, quand... certaines personnes plus vieilles ont commencé à utiliser l'informatique, on a commencé de façon beaucoup plus bas niveau, où vraiment on manipulait des fichiers, on avait vraiment cette notion d'espace disque, on était limité par les ressources, donc on comprenait l'intérêt de l'utilisation et de la limitation de l'usage de certaines ressources, puisque du coup C'était quelque chose qui était beaucoup plus bas niveau. Oui. Maintenant, en fait, les jeunes, même un dossier, un fichier, est-ce qu'ils arrivent à comprendre ça? Le cloud, c'est un très beau mot, le nuage,
oui.
De quelque chose qui, en réalité, n'a rien de virtuel, mais complètement matériel. Donc, il y a aussi toute une terminologie comme ça qu'on emploie qui est finalement très confusante et qui nous éloigne de cette réalité-là aussi, quoi. Et je suis pas forcément persuadé que c'est parce qu'on a un smartphone depuis qu'on est tout petit et qu'on va sur les réseaux sociaux qu'on comprend mieux ce qui se passe derrière.
Oui, il y a ça. Ils peuvent mieux exploiter l'outil tel quel, mais ils comprennent moins comment ça fonctionne. Enfin, moi, je vois par rapport à ma propre expérience, mais c'est quand je suis né, etc., le numérique est arrivé quelques années après.
Ah, quand même.
Oui, c'est. Alors, bon, c'est parce que l'ordinateur, ça a mis du temps à être installé dans les maisons individuelles, etc. Mais il y avait cette logique. Effectivement, c'était plus difficile d'utiliser un ordinateur parce qu'il avait sa propre logique, qu'on était obligé de comprendre cette logique-là et tout. Aujourd'hui, tous nos produits, ils sont ultra facilités pour faire en sorte que l'expérience utilisateur, puisque tous les GAFA raisonnent comme ça, soit la plus agréable possible. Et en fait, on ne comprend plus ce que font nos téléphones. Comment ils naviguent, etc.
Et peut-être retrouver une complémentarité aussi entre l'analogique, la main, entre guillemets, et ce que permet le numérique. Je pense, j'avais reçu Kizito, qui travaille, et Dom, qui sont cartographes. Je travaille avec Kizito, vraiment. Et Kizito, lui, c'est un manuel, c'est quelqu'un qui adore ça. Et toi, t'encodes certaines données pour de la cartographie aussi. Mais en fait, il y a une espèce de complémentarité entre ton travail et le sien, et peut-être Dom qui est un peu plus jeune, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi.
Ouais. Non, je sais pas, j'ai pas très bien compris là où tu voulais en venir.
Je me disais qu'entre le numérique et le manuel dans la cartographie, ça peut aider.
La cartographie est numérique actuellement,
oui.
Principalement. C'est de la représentation quand même, toutes les données, il y a très peu de données qui ne sont plus numériques actuellement.
Dans la cartographie.
Dans la cartographie,
En général aussi, non, ou plutôt dans la cartographie. En
général, je connais bien le domaine de la cartographie, donc je peux vous dire en cartographie, il n'y a plus rien de numérique. Il n'y a plus rien de
manuel.
Qui n'est pas même qui n'est pas vectoriel, enfin qui est vraiment numérisé et qui est, c'est plus des images, c'est vraiment des données qu'on transforme automatiquement en images.
Yes.
Pour revenir sur... transforme automatiquement... Pardon, excuse-moi, Manu.
Non, c'est pas grave, parce que je voulais revenir sur le sujet précédent, qu'on continue à celui-ci. Hein.
Oui.
Non, mais pour revenir au sujet précédent qui était, est-ce que, oui ou non, on se sert mieux des appareils si on est plus jeune? Je dirais, probablement dans l'agilité, dans la dextérité pour aller pianoter, c'est sûr, parce que c'est une question d'apprentissage, et donc dès lors qu'on le fait plus vite, on y arrive plus facilement. Mais par contre, il y a un problème qui est celui du paramétrage par défaut des applications. Ce qui fait que dans la politique de confidentialité de Facebook ou de WhatsApp ou je ne sais qui, finalement, c'est à nous, utilisateurs, d'aller décocher des cases pour faire en sorte que les données ne soient pas transmises à quelqu'un ou bien qu'elles ne soient pas stockées sur notre ordinateur, etc. Ce qui fait qu'on a un effort à produire, et qui dit effort, c'est que finalement, si déjà on ne sait pas, et si on le sait, où est-ce qu'il faut aller chercher ce truc-là? Donc ça demande de la formation. Et ça, on n'est pas véritablement accompagné pour maîtriser, disons, l'outil lui-même.
Oui, il y a la formation autour de la gestion vraiment des données personnelles, qui est vraiment un sujet particulier, je pense. Et après, de tout le réseau, de tout ce que ça implique derrière, en fait, de cliquer sur « like ». Enfin, voilà, qu'est-ce que, même vraiment physiquement, qu'est-ce que ça fait, quoi? Par exemple, enfin... Je vais te donner un exemple un peu faux, mais qui permet d'être très caricatural. Par exemple, vous avez des ampoules connectées chez vous.
Et des ampoules connectées.
Vous avez des ampoules connectées, ce qui n'est pas anecdotique en France, quoi. Et une boîte, OK Google ou je ne sais jamais, Alexia.
Alexia.
Voilà. Et donc, du coup, vous êtes dans votre canapé et vous trouvez qu'il fait trop sombre. Okay,
je commence à comprendre.
Donc, vous dites machin, là.
Alexia.
Voilà. Alexia, s'il te plaît, tu peux me monter la lumière un petit peu? Alors là, du coup, qu'est-ce qu'elle fait, la boîte? Elle fait « Oh, on m'a appelé, déjà, elle se réveille. » Elle dit « Ah, j'ai eu une information. » Elle enregistre l'information. elle envoie l'information à, je vais être caricatural, un data center, enfin un centre de données qui va être potentiellement, on ne sait pas où, en Californie, ou en Scandinavie, en Europe souvent c'était le cas. Cette information va être reçue en Scandinavie, elle va être analysée par un algorithme de reconnaissance automatique de l'image, de la vocale, pardon, et du coup est interprétée. Elle n'a pas très bien compris un truc parce que l'ampoule elle est un peu compliquée, donc hop, elle renvoie l'information à l'utilisateur. Ah, tu veux combien de pourcentage de gain de luminosité de plus? Alors là, on est dans notre canapé, toujours. Oh, je m'en fous, vas-y, n'importe quoi. Donc là, l'information est retransitée en Scandinavie. Elle est réanalysée pour dire, bon, il s'en fout, allez, on met la valeur par défaut, c'est pas grave. Et donc là, l'information est réenvoyée dans la maison de l'utilisateur et l'ampoule est allumée. Voilà, donc du coup, au lieu de faire 3 mètres jusqu'à l'interrupteur.
On a fait plusieurs milliers de kilomètres.
On a fait plusieurs milliers de kilomètres. Quoi. Et je pense que peu de gens comprennent. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu caricatural parce que souvent, en domotique, il y a une étape intermédiaire qui réduit la distance. Mais voilà, c'est un peu ça quand on
demande. Je trouve que c'est pas caricatural. En fait, nous, c'est vrai qu'on sait pas forcément, en fait, comme quand on envoie un mail, on pense qu'il va direct dans l'ordi du voisin, en passant par les filets du téléphone. Mais en fait, oui, il y a tout un. C'est invisible pour nous et ça, c'est bien de.
C'est invisible, mais c'est très matériel, en fait.
C'est très matériel, voilà, mais matériel. On n'en a pas forcément conscience, en fait, si on... Voilà. Mais là...
Alors que la bonne vieille méthode analogique de la balle de tennis pour essayer de taper l'interrupteur est quand même vachement efficace.
Le manche à balai.
Dès lors qu'on... Ouais, le manche à balai,
peut-être que ça peut éviter de te lever, mais bon, en même temps, se lever, c'est bien. C'est bien pour la santé aussi.
C'est pas mal, oui. Bon, et ben merci beaucoup Amandine pour tous ces éclaircissements. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie d'ajouter? Je crois que tu nous avais dit une phrase tout à l'heure qui tenait à cœur, que tu aimais beaucoup. Non.
Non,
c'était quoi?
C'était si, Internet, c'est le nouvel empire où le soleil ne se couche jamais.
Voilà, donc pensez à l'éteindre de temps en temps quand vous allez dormir. Merci Amandine. Et rebonjour, c'était Intelligence Artificielle de Paul Sabin. Vous êtes toujours sur Radio Bartas pour 1, 2, 3 Climat.
Ça a été fait par une intelligence artificielle.
Ça n'a pas été fait par une intelligence artificielle. Ça a été fait par un mec qui pensait beaucoup l'intelligence artificielle, je pense. Et bien, tout de suite, on enchaîne avec Manu qui va nous parler un peu de la surveillance numérique.
Qui aurait pu. J'ai été mal compris. Beaucoup de mauvaise foi. Et ça, je crois que c'est assez vrai.
Très bien. Donc moi, j'avais prévu de faire une chronique dans le genre Big Brother, Biberon ou Big Data. Et puis, je trouvais que c'est assez compliqué à traiter comme sujet. Je suis tombé sur un article d'un chercheur en sociologie qui m'a presque convaincu vraiment d'abandonner cette idée. En tout cas, j'avais un engagement moral. Donc je me suis dit, je peux quand même essayer d'exploiter cet article d'Antonio Casilli qui défend 4 thèses sur la surveillance numérique de masse. J'essaye. Donc, premièrement, la surveillance est devenue participative, au sens où elle est basée sur le dévoilement volontaire des données personnelles par les utilisateurs eux-mêmes. On est un peu maso, c'est quand même la réalité. Et d'autant plus qu'on perd le contrôle de nos données une fois qu'elles ont été capturées par les plateformes. Voilà. Donc, le chercheur, lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, on ne serait plus vraiment dans le modèle Big Brother, mais dans le modèle Big Other. Un autre majuscule, alors là je cite, incarnation d'une écrasante injonction sociale à la connectivité en temps réel. Bon, finalement, ça résume un peu ce que l'on a pu dire tout à l'heure. Deuxièmement, dans sa deuxième thèse, c'est que nous vivons aujourd'hui une véritable guerre culturelle autour de la vie privée. Et rien ne garantit que cette guerre sera gagnée par les États ou les géants du Big Data, même s'ils ont une bonne longueur d'avance. Et qui entretiennent actuellement le régime de surveillance participative de masse. Mais pour pouvoir vaincre l'ennemi, si je puis dire, il nous faudra quand même considérer que la vie privée est un véritable enjeu dans une société en réseau, et pour l'instant, on n'a peut-être pas vraiment pris la mesure de ce que ça signifiait. Troisièmement, loin de s'estomper, le souci de la vie privée est de plus en plus partagé. Et le citoyen connecté est donc appelé à définir une ligne de séparation entre ce qui relève de l'accomplissement collectif et de ce qui est confiné à l'intime. Voilà, c'est du lourd quand même, Antonio Casilli. Et enfin, quatrièmement, la vie privée, selon lui, a cessé d'être un droit individuel pour devenir une négociation collective. Et pour lui, ça veut dire que chaque individu procédant à un dévoilement progressif d'informations personnelles, il est dans une forme de négociation avec les autres internautes. Mais d'un point de vue citoyen, la surveillance de masse ne pourra être véritablement contrée qu'en rétablissant un équilibre entre les États, les acteurs du marché et les individus. Ce qui semble une équation assez défavorable aux individus. A priori, là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Parce que finalement, on est 100% solution. Oui. Donc, allons-y, quoi. Et je me suis dit que peut-être bien que le mouvement des communs, des communs numériques, permettrait de répondre à cet impératif, tout en intégrant les enjeux de la transition écologique. Alors, les communs numériques, globalement, c'est la production de ressources par des collectifs d'individus qui les produisent et qui les gèrent collectivement. Et donc, on est dans un domaine partagé, contrairement aux plateformes, donc le modèle capitaliste, où on est sur un modèle de captation. Et dans les communs numériques, on connaît par exemple tous le logiciel libre, qui est d'ailleurs maintenant largement utilisé par les pouvoirs publics. Et ce que j'ai lu, c'est que, a priori, le fait que le code soit ouvert, ça permettrait de prolonger la durée de vie des terminaux. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, l'idée m'a plu, quoi. Ensuite, on a des plateformes coopératives qui permettent de réduire l'impact environnemental par la mutualisation des services. Par exemple, contrairement à Blablacar, la plateforme coopérative Mobicop, elle propose des solutions de transport qui intègrent le rail, alors que Blablacar, ce sera que la bagnole. Et donc, du coup, Blablacar entre en concurrence avec des acteurs de la décarbonation, ce qui est quand même pas très logique. Et puis enfin, on a les makers qui vont collaborer pour construire des modèles 3D qui vont ensuite être utilisés localement pour produire des biens et qui seront produits à partir des ressources du territoire avec des imprimantes 3D. Donc finalement, tout cet écosystème-là, il constitue cet écosystème des communs, Et d'ailleurs, si vous voulez vous lancer là-dedans, bah, pas de problème. L'Agence nationale pour la cohésion des territoires a édité un guide en 2019 pour s'engager dans une démarche de commun numérique. Il n'y a plus qu'à.
Merci. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Eh ben merci Manu, merci tout le monde pour toutes ces explications. Donc on le voit, hein, le numérique c'est un domaine qui est très vaste. On a abordé beaucoup de sujets et en même temps il y a des choses qu'on n'a pas encore abordées et on n'aura pas le temps de tout aborder. Moi je retiens quand même que finalement il y a un impact sur le climat en termes d'exploitation de ressources, etc. Mais que finalement le numérique il a aussi un énorme impact sur nos organisations en tant que société, sur nos rapports bah, par rapport à l'économie. Tu parlais du capitalisme, il y a un peu ce côté cannibalisme puisqu'on le voit avec les applications type Uber, Deliveroo, etc. qui sont finalement des nouvelles formes d'exploitation par l'algorithme de travailleurs qui sont souvent défavorisés. Bref, le numérique c'est compliqué et vaste comme sujet. J'ai quand même fait un petit récap de ce que je trouvais cool dans le numérique et ce que je trouvais moins cool. Donc par exemple dans les apports bénéfiques, hein, y a l'intelligence artificielle qui nous aide dans la recherche sur le cancer, etc. J'ai un exemple moi personnel d'un ami à moi qui est quasiment aveugle et qui aujourd'hui en fait utilise l'intelligence artificielle pour lui décrire des images numériques qui lui permettent de mieux comprendre ce qu'il y a sur internet. Dans le même genre, il y a Neuralink qui permet aujourd'hui, qui est l'implant de Elon Musk, qui permet aujourd'hui à des handicapés de jouer à Mario Kart. Alors, on peut se poser la question de l'utilité,
oui.
Mais j'imagine que lui, actuellement, bon c'est, ça change quand même un peu le quotidien.
Lui, je pense qu'il a compris l'utilité, le Elon.
Voilà. Y a aussi donc, la communication à toute vitesse d'informations. Donc ça, dans certains domaines, ça peut être très intéressant. C'est l'ouverture de l'accès à la connaissance. Donc ça, c'est dans les premières choses qui me viennent à l'esprit. N'hésitez pas à en rajouter si vous en voyez. Et par contre, dans les mauvais côtés, bah, du coup, il y a aussi bah, cet accès à la connaissance. C'est aussi l'accès illimité à la bêtise. Donc on a envoyé des satellites dans l'espace pour connecter le monde entier à Internet pour que Billy finisse par raconter à tout le monde que la Terre est plate. Ça, c'est les externalités un peu négatives. Il y a les intelligences artificielles qui pilotent des drones tueurs aussi, puisqu'on est en train d'avoir des débats moraux de est-ce qu'il faut donner le droit à des machines de prendre la décision de tuer à la place de l'homme, ce qui est quand même très limite. J'en parlais tout à l'heure, mais il y a l'industrie du porno qui est la plus grande consommatrice de bandes passantes au monde. Il y a l'hyperinformation aussi et la saturation des cerveaux, puisqu'on est en permanence sollicité par nos appareils, les mails, les notifications des applications, les informations de tout type par tous les canaux. Cette fameuse pensée en silo, donc la pensée en silo, je détaille, ce que je disais tout à l'heure, hein, la pensée en silo, c'est quand vous appartenez à des groupes sur Facebook, par exemple, vous appartenez à des groupes qui correspondent à vos centres d'intérêt, et en fait, l'algorithme, il va vous nourrir avec ça. Il va vous présenter que des choses qui correspondent à vos centres d'intérêt.
On est un peu enfermé, voilà.
Vous êtes enfermé, on finit par tous vivre dans des réalités parallèles et ne plus avoir de socle commun. Et ça pose des problèmes en termes de faire société, finalement. Dans les choses négatives, il y a aussi ce qu'on appelle l'émergence de l'économie de l'attention. Donc, c'est un peu lié au réseau. C'est comment finalement, les GAFAM se battent pour que vous restiez le maximum de temps sur votre écran pour pouvoir à la fois mater des vidéos rigolotes de chatons et des publicités et alterner entre les deux de façon à ce que, c'est où vous voulez rigoler, où vous achetez des trucs. Donc ça favorise une addiction toxique aux écrans. Donc ça, c'est vraiment des externalités négatives et il y en a encore plein d'autres. Donc pareil, si vous voulez en rajouter, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Amandine, merci, j'aimerais beaucoup, bien Amandine, que tu deviennes chroniqueuse. C'est une invitation. Ouais. Et à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Et on se voit le troisième jeudi du mois prochain ou le quatrième.
Peut-être le quatrième quand même. On va voir ça. Mais bon, on se voit de toute façon au mois d'avril.
Allez, ciao.
Ciao, à bientôt.
Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Un, deux, trois, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Force à vous.
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Barthas 107 FM.